les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
On a dit de cette série britannique que l'on y trouvait les prémices d'une autre série culte, Le Prisonnier. Effectivement, l'interprète du numéro 6, Patrick McGowan, a d'abord connu la gloire en interprétant le personnage de l'agent secret John Drake. Destination Danger est donc importante dans l'histoire des séries, ne fût-ce que pour cette filiation, mais pas que, car il s'agit d'un James Bond télévisé plutôt réussi, deux saisons seulement, la première de 39 épisodes de 25 minutes, la seconde de 47 de 50 minutes, la quasi-totalité en noir et blanc, et pour nous en parler, Sarah.
En effet, et tous les gouvernements ont leur service secret, y compris l'Organisation Atlantique, donc l'OTAN, et quand tous les différents agents ont été utilisés et qu'on n'a toujours pas trouvé de solution, on fait appel à John Drake.
C'est la solution de la dernière chance.
Voilà. Un peu comme l'agence touriste, mais un peu avant. Alors, le ton est donné. Destination Danger, c'est une série d'espionnage avec tous les clichés que ça peut comporter. John Drake est un agent qui opère seul. Il est généralement envoyé sur les missions de la plus haute importance, souvent parce qu'elles sont liées à des gens comme des chefs d'État, des scientifiques qui peuvent faire péter le monde entier, etc. Mais aussi parce qu'elles sont cruciales pour la sécurité mondiale. Et là, on est évidemment en pleine guerre froide. Et ça se sent. Martin Winkler écrivait qu'en fait, il ne fonce pas dans les situations. Il en apprécie d'abord l'atmosphère et cherche la faille. C'est donc un caméléon avant l'heure, et je trouvais que le lien était assez chouette avec le Jarod qu'on a connu, parce que c'est pas tout à fait faux en fait. Bon, au-delà de ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin, tout le monde voit très bien le genre de mission dans lesquelles il est envoyé. Les destinations danger collent d'ailleurs totalement au genre de la série d'espionnage. John Drake est donc un agent élégant, séduisant, un espion hors pair, avec une très grande connaissance du terrain dans lequel il est généralement envoyé. Il préfère utiliser la ruse à la violence, il n'est jamais armé, mais a par contre pas mal de gadgets, un peu comme James Bond dont tu parlais, et on y reviendra tout à l'heure. En fait, Patrick McGowan voulait que John Drake soit de l'étoffe héroïque, c'est-à-dire un homme bon avec de grands idéaux qui croit profondément en la nature humaine, et quand il se bat proprement. Et d'ailleurs, il exigeait que toutes les scènes de bagarre soient chorégraphiées à l'avance pour qu'il puisse les approuver ou non. Il a donc totalement refusé qu'il y ait de la violence gratuite.
C'est un peu un genre de MacGyver avant l'heure, quelque part.
Ah oui, le lien n'est pas bête. Et McGowan lui-même trouvait d'ailleurs que la violence à la télévision, ça ne devait pas se faire. Donc c'est les idéaux de l'acteur qui transparaissent ici. Normalement, son autre compte, c'est Lone Wolf, le loup solitaire. On l'utilise que deux fois dans la série, mais ça a failli être le titre de la série. C'est donc un être solitaire et un agent qui opère seul. On lui connaît des supérieurs, évidemment. Gordon, par exemple, à Washington, le colonel Keller qui supervise l'Europe, ou Hardy qui est en Angleterre et qui contrôle les colonies, mais sur le terrain, c'est un individualiste. Il n'aime d'ailleurs pas partir en mission, et la plupart du temps, il couvre de sarcasme ses supérieurs. Il ne se lie donc pas à ses supérieurs, et il n'a pas d'équipier non plus. C'est pareil avec les femmes. C'est un solitaire célibataire qui s'interdit toute relation amoureuse. On ne le voit jamais embrasser la fille à la fin de l'épisode, et il trouve d'ailleurs inconvenant l'idée d'avoir une femme, parce que s'il avait une femme et des enfants, dit Patrick McGowan, il serait probablement tenté de prendre moins de risques, et donc ça n'a aucun intérêt quand on est un agent secret de première qualité.
Donc c'est concrètement un gars, boulot, et le reste après ne compte pas.
Voilà.
Pas de vie personnelle.
Donc on ne le voit jamais, évidemment, dans une vie personnelle supposée. On le voit une fois ou deux en vacances, mais évidemment il se passe quelque chose qui fait qu'en fait il part en mission. Il faut aussi se rendre compte que la moitié des femmes rencontrées se révèlent être l'ennemi de John Drake, et donc l'agent secret les voit d'abord comme des ennemis potentiels, et certains disent qu'il est limite misogyne, et c'est vrai qu'il en est pas loin. Il faut savoir que ce personnage, donc solitaire, non armé, non violent et célibataire, n'était pas prévu comme ça au départ, puisque Ralph Smart, qui est le scénariste, avait lui décidé que ce serait un agent secret sexy, dur, qui frappe sous la ceinture et entouré de filles. Et c'est Patrick McGowan qui a dit non, parce que non seulement il détestait la violence à l'écran, mais il détestait aussi la promiscuité à l'écran. Donc il n'était pas pour le sexe à l'écran, mais à l'époque le sexe c'était même embrasser une fille, donc voilà.
Finalement, McGowan est un acteur qui a une très forte influence sur ses personnages.
Oui.
On l'a vu avec Le Prisonnier, on le voit cette fois-ci avec Destination Danger.
Et en tout cas, il parvient à imposer sa volonté, ça paraît assez évident.
J'étais à peine revenu d'un voyage en avion lorsqu'Hardy m'appela. Ce modèle des bureaucrates me demandait de venir le voir immédiatement. Je n'avais rien à y perdre.
Avez-vous entendu parler de Vanessa Stewart?
Peut-être bien.
Avez-vous déjà été dans un endroit nommé Bedjabrim?
C'est possible.
Drake, répondez-vous quelquefois à une question par un simple oui ou non?
Simple, mais ce sont les mots les plus hasardeux en toutes les langues, monsieur Hardy.
Voici une photo de Vanessa Stewart.
Est-ce qu'elle est récente?
Oui, de l'été dernier, aux courses d'Ascot.
On dirait Windham avec elle.
Oui, c'est Windham, c'est lui. Mais la personne qui m'intéresse, c'est Vanessa Stewart. Elle est sortie de ce pays il y a 3 jours et elle a semé la police.
Apprenez à vos hommes à ne pas se laisser semer, monsieur Hardy. Où est-elle partie? À Bedjabrim?
Oui, et il faut la faire revenir. Bon, nous avons essayé l'extradition et aussi la fraude, et même les chèques sans provision. Elle doit avoir un puissant protecteur là-bas, la caution est versée.
Pour quelle vraie raison la recherchez-vous, monsieur Hardy?
Espionnage et peut-être même haute trahison.
Il n'y a qu'une très petite différence.
Ainsi que vous devez le savoir, mademoiselle Stewart a des amis et des influences un peu partout. Il y a peu de temps, il a fait un séjour à Athènes. Elle est rentrée avec un passeport britannique. Pendant ce voyage, ses activités ont été très embarrassantes pour mon gouvernement. Maintenant, si nous pouvons prouver que les dites activités pendant qu'elle était hors de ce pays ont été menées sous la protection de son passeport britannique, alors c'est de la haute trahison. Procurez-vous ce passeport.
Je suis désolé, monsieur Hardy, mais il faut chercher quelqu'un d'autre pour faire votre petit travail. Je suis éreinté. Je viens juste de m'appuyer en carrosse.
Écoutez, Drake, c'est un service personnel. Vous y gagnerez mon éternelle gratitude.
Croyez-vous qu'elle monterait jusqu'à 5 000?
Quoi, $5,000?
Non, 5 000 livres et 5 000 livres de plus pour le passeport.
C'est une somme importante.
Oui, c'est assez coquet.
Vous voulez que je refuse, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas accepter l'offre. Très bien. Moi, j'accepte la vôtre.
Monsieur Hardy, je vous promets que je ne vous pardonnerai jamais ça.
On a l'impression que Patrick McGowan reste un peu sur le même registre, prend ce registre-là pour le mettre avec le registre du prisonnier, parce que ça a l'air d'être un personnage très très froid, très très dur en négociation. Dans le début du prisonnier, nous voulons des renseignements, vous n'en aurez pas. On a l'impression que c'est exactement le même ton.
Oui, et c'est ce qui permet à pas mal de gens de faire le lien entre les deux séries. Par contre, ça tranche avec un 007, par exemple.
Oui, tout
puisque,
à fait.
À ce moment-là, le prisonnier n'existe pas encore et que la référence, finalement, à l'époque, c'est Ian Fleming. Alors, il faut faire attention, parce que la référence à l'époque, c'est Ian Fleming écrit. Le premier film 007 date de 62, c'est-à-dire l'année après Destination Danger.
Et il faut savoir que McGowan a été approché pour faire James Bond.
Il a dit non. C'est grâce à ce nom qu'on a eu Sean Connery dans le rôle, mais
il en avait marre de jouer des rôles d'agent secret.
Ouais. Donc il faut faire attention quand on fait le lien vraiment entre les deux. Maintenant la série elle-même fait le lien, parce qu'au début de la série, il nous dit que tous les pays ont leurs services secrets et que quand on s'en sort pas, on fait appel à lui. Ah, au fait, je m'appelle Drake, John Drake. Donc la série elle-même fait référence à James Bond et au personnage, mon nom est Bond, James Bond. On peut pas dire que les auteurs de Destination Danger ne connaissaient pas James Bond, parce que depuis 1953, qui est la date de sortie du premier roman de Ian Fleming, il y en a eu 7 jusqu'en 1960. Et c'est déjà un personnage très célèbre. Et il y a eu d'ailleurs un téléfilm qui est sorti en 1954, adapté du premier livre Casino Royale ou Espion, faites vos jeux en français. Donc on connaît James Bond à ce moment-là, et c'est en toute connaissance de cause que les auteurs de Destination Danger écrivent leur série.
Mais c'est justement sachant ce que tu as dit plus tôt, en disant que Patrick McGowan avait beaucoup influencé sur l'écriture. Peut-être qu'au départ, les scénaristes voulaient faire un James Bond pour la télévision, mais que McGowan a apporté sa patte et justement a changé ça.
Totalement, parce que Ralph Smart, comme je l'ai dit tout à l'heure, voulait un personnage entouré de filles, violent, qui frappe autour de la ceinture, etc. Donc c'était évidemment un clone de James Bond, et c'est évidemment Patrick McGowan qui a donné sa vision sur le personnage. Pour faire 2-3 petits liens, les analystes eux-mêmes ne cessent de faire le lien avec James Bond, généralement pour souligner les différences et les similitudes. Les similitudes, c'est que ce sont des agents secrets solitaires, qui sont les meilleurs de leur service, qui sont envoyés sur des terrains dangereux et qui fonctionnent au moment de la guerre froide, puisque James Bond au départ c'est le cas. Les différences, c'est évidemment qu'il n'est pas armé et qu'il n'est pas entouré de femmes. John Drake, pas James Bond. Et finalement, ça fait un peu sens avec le type d'espion des séries britanniques des années 60. Mais en même temps, quand je dis ça, je me rends compte que c'est aussi surtout la vision de McGowan lui-même, puisque quand on fait l'inventaire des espions des années 60 qui ne ressemblent pas à James Bond, ce sont tous ceux que McGowan a influencés.
Et quelque part, il a un côté un peu John Steed, finalement.
Oui, sauf que
Son côté, pas nécessairement flegmatique, mais par son côté respect de la personne, pas en dessous de la ceinture, respect des traditions un peu britanniques, comme ça.
Et on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui appartient plus à l'époque. On peut pas dire que James Bond recopie Drake ou que Drake recopie James Bond, mais quelque chose qui effectivement appartient probablement aux années 60, aux années 60 britanniques probablement, quand on voit effectivement ce qu'il y a à côté de ça. Maintenant, les personnages des agents secrets, James Bond et John Drake, vont influencer beaucoup la télévision, puisqu'on va avoir Mission Impossible, Max la menace, des agents très spéciaux, tout ça, ça va sortir après. Alors McGowan donc n'y est pas pour rien. Faut savoir que McGowan, quand il est approché pour Destination Danger, vient d'être élu le meilleur acteur britannique pour un film qu'il a fait auparavant. Donc c'est des jeunes célébrités à l'époque. Elihu Grade, qui est le producteur en fait de la série, l'engage pour ça, parce qu'il veut avoir quelqu'un d'emblématique. Il faut, ça va être diffusé sur ITV, il faut que ça concurrence bien la BBC, qui a à ce moment-là une grosse aura. Et donc il est connu, et c'est ça qui lui permet à mon avis d'influencer le personnage et de dire moi je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Il deviendra d'ailleurs, grâce à ce personnage-là, une véritable star, d'abord en Angleterre. Il est l'acteur le mieux payé du Royaume-Uni en 1961, et en plus il deviendra une véritable star aux États-Unis, parce que si la première saison ne fonctionne pas, on en reparlera plus tard, les autres saisons fonctionnent très bien aux États-Unis. C'est ce qui va lui permettre un moment de dire moi j'en ai marre, j'arrête, je passe à autre chose. Et à ce moment-là, de nouveau, Hugh Grade ne veut pas le laisser partir parce qu'il a envie de continuer à l'avoir sur ses grilles de programme. Et c'est lui qui va lui permettre de faire Le Prisonnier. Et là, de nouveau, c'est lui qui orchestre tout, puisqu'il est l'acteur, le producteur, le scénariste, etc., etc. Il faut savoir que depuis, McGowan est devenu... alors que finalement, c'est pas nécessairement l'acteur qui a tourné le plus, ou tourné le plus dans des rôles phares, ou tourné le plus dans des films ou des séries phares, il a une véritable aura, grâce aux prisonniers, grâce aussi à son amitié avec Peter Falk et à ses apparitions dans Columbo. Pour la petite histoire, récemment, il a surtout joué, par exemple, dans Braveheart avec Mel Gibson, et donc il a pas fait énormément de trucs. Dans Destination Danger, non seulement il a influencé le personnage central, mais il est aussi devenu petit à petit producteur et réalisateur.
J'espère sincèrement, colonel Vasco, que vous avez une excellente raison pour cette interruption.
Mes humbles excuses, monsieur le président, mais James Carpentier vient juste de s'évader par avion. Son évasion a été orchestrée par ces deux messieurs.
Vous êtes sûr de ce que vous dites ?
Oui, c'est la vérité, monsieur le président.
C'est là une offense à mon pays que je ne saurais tolérer, monsieur Drake.
Oh, monsieur le président, cela pouvait se produire, mais j'ai eu à cœur de veiller à ce que l'honneur de ce pays soit sauf.
Que voulez-vous dire ?
Monsieur Carpentier a reçu de très strictes instructions concernant ce qu'il devait dire à la presse à son atterrissage.
Et que lui avez-vous dit de raconter ?
Qu'il avait été définitivement relâché et pardonné grâce à la générosité du président Juarez.
Comment osez-vous ?
Je vous fais mes excuses, monsieur le président, mais si vous n'aimez pas cette version, bien entendu, il n'est pas trop tard pour contacter son appareil et demander à monsieur Carpentier de dire à tous qu'après 5 ans de surveillance, il a mystifié votre police vigilante et que le chef de la police lui-même l'a escorté jusqu'à l'aéroport.
Est-ce que c'est vrai, colonel Vasco ?
J'ai cru que c'était James Carp. Monsieur Schumann. Tout bien considéré, monsieur le président, je crois que vous m'accorderez que peut-être c'était le meilleur moyen de résoudre ce problème.
Colonel Vasco, j'ai besoin de vous parler. Passez demain dans la matinée. Monsieur Schumach, oserais-je vous demander de jouer ce morceau une fois de plus ?
Oh, monsieur le président, je m'en ferai un plaisir.
Monsieur Drake, prenez la peine de vous asseoir.
Avec plaisir, merci.
Entre la saison 1 et la saison 2 de Destination Danger, la grosse majorité des choses changent.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une saison 1 qui compte 39 épisodes de 25 minutes, et les autres 47 épisodes sont diffusés d'ailleurs sur 3 saisons. On pourrait presque parler de deuxième saison, troisième, jusque quatrième. La quatrième qui ne compte que 2 épisodes, parce que Patrick McGowan a décidé d'arrêter les frais avant la fin.
Il en a fait 2 en couleur, ça lui a suffi.
Voilà, ceux-là, qui sont d'ailleurs très fort décriés. Beaucoup de temps sépare les deux, puisque la première saison s'arrête en 62, et la deuxième commence en 64. Entre les deux, la série change du tout au tout, d'abord de format, elle passe de 25 à 50 minutes. Ensuite, John Drake, qui était au départ un Américain qui travaillait pour l'OTAN, devient en fait un agent des services secrets britanniques uniquement, et il est irlandais ou britannique, ça dépend des épisodes. Donc, le personnage en lui-même a beaucoup changé d'origine, on va dire. Alors, il faut savoir que la série, qui a fonctionné très bien au Royaume-Uni, mais pas du tout aux États-Unis, s'est arrêtée après une première saison à cause de ça, parce que finalement, les producteurs avait surtout ciblé les États-Unis et que si ça marchait pas aux États-Unis, ils arrêtaient. Maintenant, comme tous les autres pays ont acheté, y compris la France par exemple, et que ça marche très bien, ils ont décidé de reprendre la série quelques années après. On peut peut-être d'ailleurs y voir une influence de James Bond lui-même, puisque les films de James Bond commencent à bien marcher, donc on reprend John Drake. Et les autres saisons marchent d'ailleurs très bien aux États-Unis. C'est de là que vient la célébrité de cette série. Entre les deux, donc, il est passé de l'OTAN au service britannique, il devient britannique ou irlandais, on ne sait pas très bien. Le personnage est aussi plus approfondi. Les premiers épisodes en 25 minutes, ils sont très rapides, très efficaces. John Drake doit faire son boulot avec un minimum de ratés en un minimum de temps. Ensuite, et ça c'est Ralph Smart qui le dit, comme on a plus de temps, on peut se permettre de montrer un John Drake moins parfait, moins froid, moins infaillible. Il est aussi devenu plus sûr de lui, plus sûr de sa position au sein de l'organisation. Il sait maintenant qu'il est le meilleur des agents secrets, vraiment, et remet totalement en question ses supérieurs, ce qu'il faisait déjà en première saison, mais moins. Il reste toujours méfiant vis-à-vis des femmes, mais parfois on le voit un peu flirter. Parfois. Ça ne se concrétise jamais, tant pis pour lui, mais... Voilà. Et aussi, la première saison était beaucoup plus réaliste et terre-à-terre. Les autres partent vraiment dans des choses plus gadgets, plus action rapide. Enfin, vous voyez, genre, à mon avis, là aussi, James Bond est passé par là et on peut plus tout à fait faire une série d'espionnage sans penser à James Bond.
Est-ce que ça veut dire que la deuxième saison est moins bonne que la première ?
Pas nécessairement, mais en tout cas, elles sont différentes. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les deux derniers épisodes qui constituent la quatrième saison sont très mauvais. Ceux en couleur que tu disais sont décriés par la critique. Ils ont en plus été mal doublés et c'est plus Jacques Thibault qui fait la voix du héros. Et ces deux épisodes-là, peut-être ont poussé d'ailleurs Patrick McGowan à arrêter les frais. Il trouvait que la série se répétait, mais elle s'est très mal terminée. Ils ont été assemblés pour former un téléfilm d'ailleurs qui a été diffusé parfois sous cette forme. Mais finalement, entre la première, c'est pas la même chose, quoi. Mais je pense que elles se valent en tant que telles. Il y a aussi formellement des choses qui changent. Les génériques, on l'a dit, il y a plus de voix off, alors que dans la première saison, il y a une voix off. Et petit clin d'œil, le nom de McGowan n'apparaît plus après le titre, mais avant. Donc on voit que son statut à lui aussi a changé. Et comme j'ai dit, donc on passe de 25 à 50 minutes. En fait, ça s'arrête aussi parce que McGowan a décidé que non seulement ça se répétait, mais qu'en plus il a déjà l'idée du prisonnier. Ça faisait un petit temps qu'il avait cette idée du prisonnier et il aimerait se consacrer réellement à cette série. Je vous l'ai dit, Hugh Grant, qui veut garder l'acteur sur sa chaîne, accepte sans condition le prisonnier.
Et en plus, en tournant Destination Danger, il trouve le décor.
Ouais, c'est en tournant. Voilà, la première saison, il trouve le village de Port Mahon qui deviendra effectivement. Le décor du prisonnier. Alors la plupart des gens considèrent que le numéro 6 et John Drake sont la même personne, que le numéro 6 est un agent à la retraite et qui en fait il est John Drake. Et comme tu le disais, on retrouve aussi ce ton cassant, le fait qu'il s'oppose toujours à ses supérieurs, etc.
D'ailleurs, plus poussé en version française qu'en version originale, puisque l'acteur qui a doublé a vraiment forcé le ton. Je trouve que quand on regarde Le Prisonnier, je connais pas Destination Danger en VO, mais Le Prisonnier est beaucoup moins sec. Patrick McGowan est beaucoup moins sec que Jacques Thibault.
Alors il faut savoir que d'autres liens peuvent être faits aussi entre les séries. Par exemple, le décor, on l'a dit, mais il y a aussi des guest stars qui passent de l'une à l'autre et un personnage qui passe, le personnage de Potter, passe d'une série à l'autre et certains scénarios qui n'avaient pas été utilisés pour Destination Danger sont utilisés pour le numéro 6. Donc on voit qu'il y a quand même une filiation. Maintenant, McGowan lui-même a dit que c'était pas vrai, que selon lui, le numéro 6 n'est pas John Drake.
D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est un agent spécial. Il démissionne de quelque chose au départ, mais on ne sait pas de quoi.
C'est ce que j'allais dire. Christophe Petit lui-même, d'ailleurs, considère qu'effectivement, Le Prisonnier n'est pas la suite de Destination Danger, parce que les séries, selon lui, n'ont rien en commun, à part l'acteur principal, et qu'on ne sait d'ailleurs même pas, comme tu le dis, si le numéro 6 était réellement un agent secret. Maintenant, Jacques Baudou, par exemple, qui a fait un livre à feu, les éditions Le 8e Art, considérait lui tout à fait que John Drake était le numéro 6 et donc donne des arguments. Je vous laisserai seul juge du truc, finalement. Maintenant, il y a une chose qui est tout à fait intéressante, c'est cette espèce de vision des personnages solitaires que peut avoir Patrick McGowan et qui passe finalement dans les deux et qui fait effectivement qu'on peut difficilement voir l'un sans l'autre maintenant. Pourquoi ça vaut la peine de le regarder ? Parce que c'est intéressant de voir Destination Danger maintenant. D'abord parce qu'on ne peut plus le regarder sans penser à James Bond d'une manière ou d'une autre, alors qu'en fait elle le précède un petit peu. Donc déjà ça, c'est intéressant de voir comment dans les années 60, il y a eu certaines personnes qui faisaient un espion autrement que James Bond, même s'il a eu beaucoup moins de célébrité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette série d'espionnage un peu atypique et qui forme finalement une espèce d'école britannique Ça, c'est super intéressant. Maintenant, il est vrai que c'est une série des années 60 et que donc, même si elle n'a pas forcément mal vieilli, il faut quand même savoir que c'est fort répétitif, qu'on est face à des choses qu'on ne reverrait plus maintenant, et face notamment à des visions de la femme qui sont parfois un peu simplistes.
Il n'y a absolument aucun côté feuilletonisant dans la série, ce qui fait que effectivement le côté répétitif est encore intensifié, puisque le héros n'avance pas.
En effet, et ça on n'est plus habitué à ça. C'est là qu'on voit aussi que notre manière de faire des séries a changé probablement dans les temps.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.